La nostalgie a la cote, puis pas juste au cinéma et à la télé. De plus en plus d'amateurs de jeux vidéo redécouvrent les classiques des années 80 et 90. Le phénomène porte un nom, c'est le rétro gaming. Et on a un spécialiste de la question ici même à la station. C'est l'animateur de la Grande Messe du Rock, Jackie Pop. Salut, Jackie.
Salut. Tu mets beaucoup de pression, là, tout d'un coup, l'expert, le spécialiste du rétro gaming.
Définitivement.
Je vais commencer en disant une chose. On parle beaucoup de nostalgie, mais tu sais, il faut jamais oublier que la nostalgie, c'est plus comme ça a été. Quelle espèce de bonne blague!
On part très, très fort.
Oui, on part très fort. J'espère qu'on le paye, lui.
Pas négocier, là.
Non.
Es-tu embarqué là-dedans, toutes les Stranger Things, les Hits, les Ghostbusters version 2017-18?
Moi, j'ai été élevé avec Ghostbusters à la base. Fait que, tu sais, j'ai écouté la nouvelle version surtout pour faire plaisir à la petite chez nous. Puis, sans vouloir comparer, mais oui, tu sais, tout ce qui vient chercher ma fibre des années 80, je suis né en 78. Donc, okay. Moi, je suis un 80s kid, tu sais, j'ai grandi là-dedans. Tout ce qui est pixelisé, ça vient me chercher tout le temps.
Puis, on parle de culture pop, là, mais c'est partout, là. On parlait avec Arnaud Granata d'Infopresse il y a une couple de mois du phénomène du rétro-marketing. Puis, ils veulent nous vendre un paquet d'affaires avec la nostalgie, là. Ça peut être du poulet barbecue avec PFK qui ramène le colonel.
Je suis passé dans une certaine banque de grandeur nationale.
Oui.
Et puis, on essaie de nous vendre des hypothèques avec des images pixelisées. C'est rendu à ce point-là. La génération des 35-45 ans, on a grandi avec ça, puis c'est avec ça que tu viens nous chercher. Pareil comme il y a 10 ans, tu allais chercher la génération de 35-45 ans avec du Led Zeppelin.
Oui, c'est vrai. Puis là, j'ai l'impression que ça fait à peu près un an et demi, plus particulièrement, que le rétro gaming, là, les vieilles consoles, ça revient à la mode. Pourquoi est-ce que c'est revenu au goût du jour, d'après toi? Là?
Parce qu'on peut. C'est aussi simple que ça. La technologie permet de le faire. Je reviens, il y a 30 ans, mettons, tu pouvais pas ressortir facilement quelque chose qui avait un look des années 40 parce que la technologie le permettait pas nécessairement, puis la physique t'es pas rendu là. Là, c'est super facile. C'est de la technologie, c'est de l'informatique, c'est un petit ordinateur, tu fais de l'émulation, tu viens faire penser à un ordinateur qui est une console avec des logiciels qui font penser à l'ordinateur que c'est des cassettes, puis ça se fait assez facilement. Donc, la possibilité de le faire fait que c'est possible.
Là, tu parles de geeks qui sont capables de bidouiller leur ordi pour le faire, mais Nintendo est embarqué là-dedans à côté, là, il y a à peu près un an et demi, deux ans, justement.
Quand Nintendo embarque dans quelque chose, c'est qu'il y a un bon support qui vient de ça, et Nintendo a le gros avantage d'être la seule compagnie de jeux vidéo, en fait, la plus vieille compagnie de jeux vidéo encore active aujourd'hui. Sega est décédé, les consoles au moins de Sega sont mortes en 99 avec la Dreamcast, est arrivé Sony PlayStation, est arrivé la Xbox, mais Nintendo est là depuis 85 en version console de maison en Amérique du Nord. Fait qu'ils ont cet avantage-là d'avoir ce qu'on appelle un back catalogue, un nombre de jeux impressionnant qui leur permet d'avoir, avec une trentaine de jeux sur une mini-console, tout ce qui nous a marqué pendant qu'on était jeunes.
À Noël 2016, j'ai essayé de mettre la main sur la petite NES mini, là, la petite console.
T'as pleuré combien de temps quand t'as pas été capable de l'avoir?
J'ai jamais été capable. Je me souviens, on était sur Best Buy dans l'après-midi, on faisait F5 comme des compulsifs parce qu'à un moment donné, on avait vu un tweet qui disait qu'à 3 heures, il allait en avoir 50. Puis finalement, on était incapable de mettre la main là-dessus. Ceux qui en avaient une soignaient ça sur Kijiji, mettaient ça à 250-300$, puis ça trouvait preneur. Là.
Je vais faire un éditorial très court, mais moi, ce que je trouve insultant dans tout ça, c'est que Nintendo s'est dit, on le vend pas comme une console de masse, on va le vendre comme un article de collection.
Ah oui.
Donc, on va vendre juste quelques-uns.
Il y aurait eu un marché pour
ben oui,
ça.
Ben oui.
Ben plus que les... Ben, il y en a eu quelques millions quand même. Mais pour Noël 2016, s'il avait voulu ouvrir les vannes, il y en
mais
aurait
ils
vendu.
Ils font toujours ça, Nintendo.
Oh, oui.
Même les consoles neuves, il en manque tout le temps
C'est le nouveau marketing maintenant.
Exactement.
Tu fais un marketing de manque. Tu dis, ben écoute, je vais être le premier dans le fil parce que ça se peut qu'il n'y en ait plus dans 10 minutes.
Voilà. Ben.
Comme les billets de McCartney, mettons.
Les billets de McCartney, les iPhones.
C'est le FOMO, le Fear of Missing Out.
Exactement.
Mais pour appliquer à la consommation.
Mm-hmm. Là, dans ce cas-ci, pour la NES Mini, ça venait avec des jeux préinstallés, c'est ça?
Oui, il y avait 30 jeux en dedans. Il y avait une façon de la craquer, comme à peu près tout ce qui était informatique. Tu pouvais rentrer à peu près tout ce que tu avais comme jeu si tu avais des versions logicielles. Là, tu pouvais craquer ça en bon français, mais de base, oui, c'était 30 jeux, les franchises les plus connues.
Mais c'était pas inédit de pouvoir rejouer à ces vieux jeux-là de la NES qu'on avait. Il me semble, la Wii, on pouvait télécharger des jeux sur une espèce de marché en ligne.
En fait, c'est toujours rendu là, c'est une question de qui a les droits des jeux. Est-ce que les compagnies qui ont les droits veulent les laisser sortir ou ils travaillent sur un remake qui va ressortir dans quelques années? Tu sais, on sort du Nintendo, mais une franchise que j'aime beaucoup, Chrono Trigger, qui est sorti.
Ça, c'est des jeux de rôle.
Des jeux de rôle sur Super Nintendo il y a quelques années. Il n'a jamais donné les droits à personne d'en faire une version plus récente ou à peu près, Puis la rumeur, c'est qu'ils travaillent sur une version beaucoup meilleure, l'histoire originale avec des meilleurs graphiques. Si tu laisses aller les droits à quelqu'un d'autre, tu perds tout ce levier-là.
Là, on parle de la NES Mini. Il y a eu la Super NES.
Oui, Super NES. Puis il y a la Genesis qui a été annoncée, si je ne me trompe pas, la Mega Drive Mini qui a été annoncée cette année, qui devrait sortir dans le courant de l'année prochaine aussi. C'est une vague. À peu près tout le monde. Il y a la Commodore 64 Mini qui est sortie. J'ai vu passer ça.
Il y a des gens qui veulent rejouer à ça en 2018.
Oui, ben il y a eu deux vagues de jeux vidéo. Hein. Pas beaucoup de gens le savent, mais en 82-83, là, il y a eu un gros crash de jeux vidéo en Amérique du Nord. Les jeux étaient rendus mauvais. Mais vraiment, vraiment mauvais, tellement que le jeu E.T. qui est sorti sur la Atari 2600, si je me trompe pas, ils ont été obligés d'en enterrer des caisses et des caisses et des caisses dans le désert parce que ça se vendait pas. Puis même en les passant de 50$ à 4,99$, les magasins restaient pris avec. Donc le jeu vidéo était rendu bas. Et c'est grâce à Nintendo qui revenait avec une qualité que le jeu vidéo a eu un deuxième souffle. Mais à cette époque-là, on se disait, le jeu vidéo, ça va s'essouffler, ça va mourir.
Le Commodore 64, fallait pas programmer son jeu aussi. C'était pas juste une cartouche que tu mettais dedans, c'est ça. Il y avait quelques opérations à faire pour arriver au résultat.
Mais il y avait aussi des jeux.
Il y avait des cassettes audio. Les jeux étaient là-dessus. Tu mettais ta cassette, tu faisais play, puis ça prenait 20 minutes.
Ouais.
Moi, j'avais un Coco 3 chez moi, qui est un équivalent de Commodore, mais fait par Tandy, anciennement Radio Shack. Et puis, j'avais un livre pour apprendre à programmer le Basic, donc je faisais des petits jeux chez moi, mais j'avais aussi Donkey King, la version rip-off de Donkey Kong, sur ça, puis tu pouvais programmer. C'était un petit ordinateur, mais t'avais des jeux déjà tout faits. Le jour où j'ai eu un lecteur de disquette, là, hey, Donkey King, il prenait plus 20 minutes à loader, c'était 12 secondes.
Ouh! As-tu encore ton Nintendo original, le NES.
La seule console de Nintendo que je n'ai pas, c'est la Wii U. Parce que j'ai pas embarqué là-dedans, mais j'ai toutes les autres à la maison.
Puis c'est-tu encore possible de les brancher, ces vieilles consoles-là, sur nos télés modernes? Parce que là, on est rendu avec des câbles HDMI. C'est pas toutes les télés qui ont le câble rouge, jaune, blanc.
Ben, à cette époque-là, Nintendo était précurseur. Hein, ils se sont dit, oh, d'après moi, le câble jaune pour l'image, là, ça va pogner dans le futur. Donc, tu pouvais la brancher par le câble qui se visse, le fameux câble qui est fourni par le câble au distributeur. Mais t'avais aussi la file jaune pour l'image et le son en mono. Donc, oui, c'est encore possible de brancher la NES originale sur une télé. Par contre, on peut pas jouer à tous les jeux. Tout ce qui nécessite le zapper, ça marche pas.
Le zapper, ça, c'est le
gun. Le fusil. Parce que, à l'époque, la façon que ça fonctionnait, c'est quand tu tirais sur la gâchette, ton fusil détectait quel point est allumé dans ton écran. Parce qu'un écran cathodique, c'est un seul point qui balaye vite. Donc, le fusil calculait quel point est allumé.
Okay.
Est-ce que tu avais touché le canard ou pas? Maintenant, la technologie, c'est que l'écran est allumé au complet, à toutes les images. Donc, le fusil, il n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. Puis en plus, il y a un décalage à cause du fait que c'est de la nouvelle technologie. Fait que les fusils, on oublie ça. Mais tout le restant, on est capable de jouer.
Mais si tu veux jouer à le Duck Hunt, ça te prend une télé cathodique,
oui.
Le cube qu'on avait.
Faites le tour du village des valeurs.
Ouais,
là,
c'est
puis,
ça.
Trouvez-vous une 13 pouces en noir et blanc.
Je parlais avec Nico tantôt en préparant la chronique. Puis on se disait à quel point les jeux étaient cruels dans ce temps-là.
Il y a un running gag sur les forums maintenant qui parle de rétro gaming. On parle d'un jeu qui est difficile, puis un jeu qui est NES difficile. NES hard est une expression consacrée pour dire que, écoute, c'est tough, là. OK, tu vas être vraiment content quand tu vas avoir passé le niveau, mais tu vas être repris souvent pour être capable de le faire.
Mais moi, c'était pas Nintendo qui avait le jeu. Mais moi, je remonte plus loin. Moi, j'ai commencé aux arcades.
OK.
Et le jeu qui nous faisait tous sacrer, même si on avait 10, 11, 12 ans, parce que ça mangeait nos 25 sous, puis il était plus cher en plus celui-là, c'était Dragon's Lair.
Ah oui!
Il était cool parce que tu jouais comme dans un film animé.
Oui.
Mais c'était le double des prix des machines habituelles.
Et la machine, elle pétait souvent aussi. Ça, ce qu'on ne sait pas,
la c'est... La machine pétait, puis de toute façon, tu mourrais après à peu près 3 minutes.
Oui. Pour les gens qui ne savent pas de quoi Nico parle, Dragon's Lair, c'est un jeu qui est en dessin animé. Puis quand il y avait quelque chose qu'il fallait que tu fasses, l'élément, il clignotait. Donc, soit tu tassais à gauche, si la porte a clignoté à gauche, tu tassais à droite, tu pesais sur le bouton s'il fallait que tu donnes un coup d'épée au bon moment. Mais c'était une question de timing épouvantable.
C'était ce qu'on appelle maintenant dans les jeux, tu as ça dans God of War et plein d'autres, des quick time events. C'est-à-dire qu'on dit
Paye sur X,
puis il faut que tu le fasses en dedans d'une fraction de seconde. Mais c'était ça multiplié par 200 650 000 niveaux de difficulté.
Multiplié par tout le jeu.
Ouais, exact.
Puis quand on n'avait plus de vie, là, c'était pas voulez-vous continuer. C'était tu recommences au début, puis attelle-toi. Là.
Exact.
À moins que tu connaissais le truc des continues. Peu de gens savent que si tu pèses à droite et start dans Mario Bros, tu peux recommencer au niveau que tu étais.
Droite et start.
Ouais. Dans Adventure Island, si tu prends, t'as un œuf en forme de d'abeille dans le premier niveau. Ça, ça te permet de continuer. Mais ça, c'est des affaires qu'il fallait que tu saches. Sinon, oui, tu repars tout le temps du début.
Top 3 de vos jeux préférés dans le rétro gaming. Je vous ai posé la question. Nico a parlé un peu plus d'arcade. Je sais pas si t'es remonté
ouais,
jusque-là
remonté
dans tes
jusque
affaires.
Là. Moi, c'est des jeux d'arcade.
Je vais commencer par notre invité, Jackie. Toi, t'as choisi quoi?
J'ai hésité pour ma troisième position entre Dragon Warrior. J'suis un fan de jeux d'aventure, action rapide un peu moins. Mais aventure là, et RPG, c'est pas mal mes affaires. Dragon Warrior, mais j'y vais avec Final Fantasy.
La musique était bonne dans ce
mais c'était
hein?
pas ma préférée, celle-là. Ça, là, c'est quand tu t'allumes la cassette, mais à peu près 20 minutes, une demi-heure après avoir commencé à jouer, là tu traverses le pont, puis là, ils t'expliquent qu'est-ce que t'as comment. Ils te disent qu'est-ce que tu fais, puis où est-ce que tu t'en vas. Là, t'as l'histoire du jeu jusqu'à maintenant qui t'apparaît, et on te dit. La quête ne fait que commencer. En deuxième position, je vais surprendre beaucoup de gens. La franchise Zelda, c'est une franchise qui marche très, très fort. Entre autres, avec Breath of the Wild sur la Switch, qui est un des meilleurs jeux, point. Mais moi, j'ai commencé à jouer à Zelda avec Zelda 2. Au lieu d'être par-dessus le joueur, c'était un jeu d'action de côté. Puis moi, je l'aimais bien. Je suis probablement tout seul de ma génération à l'avoir aimé, là, mais moi, j'ai commencé avec lui.
Nico, il a pas l'air seul.
J'espère que le jeu était meilleur que la musique.
Ben, encore là, t'avais une obligation d'avoir un bon jeu parce que t'avais pas de son puis t'avais pas de graphique. Fait que les jeux, t'avais quelque chose qui créait une dépendance parce que s'il était mauvais, en plus, il était lettre. et mon numéro un, je pense, c'est le classique des classiques qui a défini la franchise. Super Mario Bros.
Ça,
3.
Ça, j'ai joué, par exemple.
Parce que Mario 1, c'est semi un accident. Ça a eu un gros, gros succès, mais on se demandait où l'amener dans sa deuxième itération. Le Mario 2 était complètement différent. Au lieu de lancer des boules de feu, on déterrait des champignons. On déterrait des légumes. Mais le troisième, là, on se transforme en raton laveur. Il y a la boule de feu, on est capable de voler. Et on a amené comme d'autres personnages à la franchise qui a amené Mario dans... l'esprit de Mario qu'on connaît maintenant, ça vient directement de Mario Bros. 3.
Nico, ton top 3, toi?
J'ai triché un peu. C'est plus que 3.
T'as triché, je m'en vais.
Ouais. Bon, je vais vous en dire un pour Nintendo, Animal Crossing. Et que j'en ai passé des heures là-dessus, des heures. C'était un village, tu te refaisais un village, puis tu pouvais payer. Tu faisais les mêmes affaires que tu fais dans la vraie vie. Fallait que tu travailles pour agrandir ta maison puis acheter des meubles pour mettre dedans, mais tu le faisais sur jeu vidéo, fait que c'était plus fun. C'était moins stressant un peu. Fait que ça, c'est pour Nintendo, parce que je passe... tout le monde a joué à Mario, là. Tout le monde qui a joué à des jeux vidéo joue à Mario. Mais en arcade, j'ai mis... des dizaines et des dizaines et des dizaines de rouleaux de 25 sous.
D'argent de l'époque, ben oui.
Oui. Dans Missile Command. Ah oui. Ça, tu jouais avec une boule de quille dans le tableau, là, parce que tu tassais tes curseurs avec vraiment une boule.
OK. Mm-hmm. C'était pas ça les lasers qui descendaient
c'est
du
ça.
Ciel?
C'était des missiles qui descendaient du ciel, puis toi, il fallait que tu les interceptes. T'avais des bases par terre, puis il fallait que tu les protèges. J'ai joué à Astéroïde. Mm-hmm. Beaucoup. Je vous ai parlé de Dragon's Lair. Burger Time.
Oui!
T'avais ta commande, puis il fallait que t'es...
Fallait que tu montes un hamburger. C'était un peu comme Donkey Kong, mais avec des...
Tu marchais ses ingrédients, puis ils s'empilaient les uns sur les autres.
Oui, ça, exact. Okay. Et Joust.
Oui, avec les deux, oiseaux.
On embarquait comme sur des autruches, puis on se battait. Puis c'était du combat comme médiéval, parce que t'avais des lances. Puis c'était ça. C'était c'est les jeux sur lesquels j'ai passé le plus d'argent quand j'étais jeune et bum et j'allais à l'arcade.
C'était basic, mais c'était le fun.
Ben oui, c'était le fun.
Moi, dans les classiques, il y a Tetris, que je joue encore avec ça, les versions 2018. Là, sur iPhone, il y en a une qui est excellente. Puis ça, faut jamais toucher à ça, là.
Non.
Faut que ça reste tel quel pour encore 150 ans.
Écoute, il y a un documentaire sur Tetris qui est hallucinant. Comment le jeu a été créé, puis comment il a été distribué, puis qu'est-ce qui a failli arriver. Là. Un jour, je te mettrai en contact avec le documentaire.
Je suis pas très bon, mais j'aime ça.
J'ai accroché là-dessus. Moi, j'ai découvert ça en 89. J'étais allé en France, puis mon chum français m'avait... On allait passer une commande. Bref, on avait passé du temps en attendant que la commande soit prête dans le bar, dans le café en face.
Il y avait une bombe, là.
C'est là que j'ai découvert le Tetris. Puis après ça, j'ai acheté ça. J'avais un Game Boy.
Oui, noir et blanc.
Oui, monochrome. Mm-hmm. Oh oui, j'ai Christy, que j'ai passé des heures là-dessus.
Moi, dans les deux autres jeux que j'ai choisis, je suis sorti un petit peu des sentiers battus. Le deuxième, c'est Battletoads. C'était des grenouilles qui se battaient. Tu cheminais dans le tableau, puis là, il fallait que tu tapes sur la boîte des adversaires qui arrivaient dans le pouce. C'est un beat'em all qui appelle. Tu sais, il y a eu Double Dragon, puis il y en a eu un paquet. Moi, Battletoads, je trouvais ça bon. Puis là, il y a un remake qui s'en vient justement. Et mon préféré, c'est Mike Tyson's Punch-Out.
Ah, ouais.
Le jeu de boxe. Ah, oui. Tu avais des niveaux, là, il y avait, je sais pas, une douzaine de personnages différents, puis chacun avait ses propres faiblesses qu'il fallait que tu découvres. Puis une fois que tu les avais trouvées, ben là, tu passais le jeu les deux doigts dans le nez parce que tu savais exactement quoi faire puis comment timer tes mouvements. T'es...
Sauf Mike Tyson, parce que dans la première minute et demie, s'il te touche, tu meurs.
Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, j'ai joué pas mal à Punch-Out sur le Nintendo, puis il y en avait une version aussi sur Super Nintendo par après. Jackie, penses-tu que cette mode-là va finir par s'essouffler, que c'est éphémère de triper sur les jeux des années 80 puis 90 de même?
Ben, à cette question-là, je vais dire oui. Si t'enlèves la finale de ta question, veux dire, est-ce que c'est éphémère qu'on tripe sur les jeux qui nous ont marqués pendant qu'on était jeunes? Ben, dans 20 ans, là, ils vont jouer à des émulations de PlayStation. Ils vont jouer à des jeux qui aujourd'hui sont hot. Donc, la nostalgie va toujours vendre. C'est juste que la période 80-90, ça nous touche, nous, directement. Mm-hmm. Quand on va être rendu trop vieux pour être rentable pour ces compagnies-là, ben, ils vont sortir qu'est-ce qui était hot aujourd'hui.
Il y en a qui vont être nostalgiques de Justin Bieber un jour. Difficile à croire.
Difficile à croire. Le retour de nos idoles. Mettons en vedette Justin Bieber.
Moi, je suis né au monde un couple d'années avant la plupart d'ici, oui. De ceux qui sont ici. J'ai connu la première console qui est rentrée chez nous. Moi, j'étais pas un maniaque de ça. Mon petit frère, un petit peu plus. C'est une Atari, là.
Mm-hmm.
Et moi, je jouais de temps en temps avec... C'était un jeu de simulateur de navette spatiale. Et il y avait aussi le jeu River Raid. Alors, c'était des avions qui se promenaient au-dessus d'une rivière. Il fallait que tu descendes des bateaux en dessous. Mais c'était assez basique.
Ben oui, tu sais, c'était un carré bleu qui court après un rectangle rouge.
Ça ressemblait un petit peu à ça. Mais par la suite, j'ai joué beaucoup aussi à Tetris, comme je te disais tantôt. Mais beaucoup, beaucoup au golf sur l'ordinateur. Là, c'était plus des consoles. Là. Mais une console, ça, j'ai jamais eu ça à moi. Jamais, jamais, jamais. C'est plus des jeux sur ordinateur.
Je t'en prêterai. Je deux,
il y a tout ce qu'il faut, je pense. Là, chez lui.
Mais là, c'est simulateur de vol, là, Microsoft. Ah oui? Oui, puis...
As-tu le joystick qui vient avec?
Puis... J'ai juste le joystick. Mon frère est plus maniaque que moi. Il s'est monté un cockpit d'avion. Et on est allé ensemble il y a deux semaines chez AeroSim Experience sur Perrin, Jean Perrin. Mm-hmm. Puis j'ai piloté un Airbus A320. Puis je ne l'ai jamais crashé. Je n'ai jamais passé proche de le crasher.
Tu as réussi à atterrir?
Oh, oui.
Puis
dans des
ensemble.
Conditions compliquées, là, entre autres l'ancien aéroport d'Hong Kong, là, il faut que tu passes entre des buildings pour l'atterrir.
Okay.
Tu fais un virage de 90 degrés assez serré juste à la fin. Là.
Ben, je sais qui a appelé pour m'amener dans le sud. On va t'appeler. On louera un Airbus, puis tu
pas de problème. On va l'analyser, on va s'arranger.
Je t'envoie la facture, là, mais pas de problème.
Jackie, en fin de semaine, est-ce que t'es pas mal festival d'été?
Je suis sur le terrain, ouais. Au festival d'été toute la fin de semaine. Là, j'avais une programmation Avenged Sevenfold pour samedi.
Ouais. Parce que ça vient de sauter un peu.
Je vais réviser mon log musical. Mais oui, je suis sur place. Si vous voulez venir faire un tour, triper sa grande allée, ben, je serai là. Venez me voir, venez me serrer la pince, puis vous êtes tous les bienvenus.
Merci pour la dose de nostalgie. C'était François-Jacques, alias Jackie Pop, animateur de la grande messe du rock au FM 93.